On va aller ensemble dans deux passages ce matin. Vous allez devoir, je ne sais pas si vous mettez des onglets, comment vous faites quand vous vous promenez virtuellement ou électroniquement. On va aller dans deux passages, dans Romains puis dans Galates ce matin. Puis on termine la série ce matin avec ces deux passages-là. Donc, simplement pour introduire, avant que Julie nous fasse la lecture des passages, dans Romains 15, les versets 1 à 7, alors les deux passages, ce sont des lettres de Paul, d'accord? Dans le premier passage, dans Romains 15, Paul est en train d'adresser un sujet de division dans l'Église de Rome. Et vous allez voir, il y a des éléments communs dans les deux passages, mais ce qui se passait à Rome chez certains chrétiens, c'est que certains d'entre eux venaient d'un arrière-plan juif, s'étaient convertis, avaient reconnu que Jésus était bel et bien le Messie des Juifs. Et ces gens-là, donc, avaient vécu vraiment sous la loi de l'Ancien Testament. Et donc, certains d'entre eux, après avoir connu Christ, restaient avec des préceptes de l'Ancien Testament. D'autres se sentaient libres de ça. Et de plus en plus, donc à Rome, c'était le cas, de plus en plus, l'Église devenait majoritairement des non-Juifs, des païens, comme Paul va les appeler, qui se sont convertis au christianisme, qui, eux, n'ont jamais été sous la loi de l'Ancien Testament. Et donc, ils arrivent sous la loi de Christ, avec une grande liberté. Là où le Juif n'allait pas manger de porc, eux autres, ils disent, ben, pourquoi ça serait un problème? Et certains en étaient venus, par principe personnel, même à ne pas manger de viande du tout, à devenir végétarien en se disant, on va s'éviter tous les dilemmes, je ne mangerai même pas de viande du tout. Alors que d'autres étaient en train de se sentir très, très libres de manger de la viande, tout ça. Et Paul veut adresser ça pour aller voir justement cette notion d'accueil. Comment est-ce que Dieu se comporte avec chacune des personnes dans l'Église? Et ce matin, ce qu'on va aller voir, c'est ce Dieu-là qui nous accueille, d'accord? Et on va aller voir comment Paul traite ça. Ensuite de ça, dans le livre de la lettre aux Galates, c'est encore Paul qui écrit une lettre encore une fois. C'est un contexte un petit peu différent, mais c'est encore à voir avec la question de ceux qui disaient saisir l'Évangile puis qui arrivaient d'un arrière-plan juif. Alors, plein de gens en étaient venus à connaître l'Évangile de Jésus-Christ, à saisir qu'on est sauvé par grâce seulement, non pas en étant capable de performer puis d'obéir à la loi, mais certains d'entre eux commençaient à enseigner dans l'Église qu'en plus de croire en Jésus-Christ, il fallait observer des lois de l'Ancien Testament. Puis dans le fond, c'était comme une condition essentielle pour être un chrétien et commencer à enseigner ça. Et ce que ça donnait, c'est que pour certains d'entre eux, finalement, on s'en retourne dans un salut par les œuvres à quelque part, dans une compréhension d'un salut par les œuvres. Si je performe, si je peux cocher toutes mes petites cases, j'ai observé mes lois, boum, je suis sauvé, ça va. Je suis sauvé par la grâce et les œuvres à quelque part. Et Paul veut adresser ça parce que pour lui, c'est revenir en arrière. Et il va parler de ce fait que Dieu s'investit en nous pour faire de nous des enfants et s'investit en nous pour faire de nous des adultes en Christ, des adultes en Jésus-Christ. Et on va aller voir ce Dieu qui s'investit lui premièrement pour nous former. Bien avant que nous on embarque dans la formation de disciples, Dieu s'est investi en nous. On va écouter la lecture des Écritures.
Alors, les passages bibliques de ce matin sont tirés du livre Romains au chapitre 15, versets 1 à 7, et du livre Galates au chapitre 3, verset 26, au chapitre 4, verset 20, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Romains au chapitre 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Galates au chapitre 3, verset 26, jusqu'au chapitre 4, verset 20. « car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître en tout. Mais il est sous les des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années? Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet.
Merci, Julie. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer ce matin. On est assemblés, Seigneur, pour entendre ce que tu veux nous dire par ta parole, pour recevoir ta sainte parole, Seigneur, dans nos cœurs, se placer sous le ministère de ton Esprit Saint, parce que nous croyons que cette parole, c'est toi qui l'as inspirée et que ton Esprit se sert de sa parole pour nous transformer, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui nous a aimés. En toute chose, tu es celui qui a initié cette relation d'amour avec nous. C'est toi qui es le Créateur, c'est toi qui as créé cet univers extraordinaire, cette planète merveilleuse où tu nous as placés. C'est toi qui nous as créés à ton image, Seigneur. Et ce matin, je te prie dans ta grâce de venir élever ton nom dans nos cœurs. Alors qu'on parle d'accueil, de formation de disciples, viens, Seigneur, élever ton nom, ta gloire à toi ce matin, en nous montrant combien tu es celui. Tu es celui qui nous accueille. Tu es celui qui s'investit pour nous former, Seigneur. Et tout ce qu'on veut être, c'est à ta ressemblance, ô Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. 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 Ce matin, on va parler ensemble de Dieu, de son projet. Parce qu'on parle depuis plusieurs semaines de travailler à être une église plus accueillante, de travailler à être une église qui fait de la formation de disciples. On veut travailler sur quelque chose. Si vous ne l'avez pas attrapé encore, je pense que vous ne l'attraperez jamais. Ça fait un mois qu'on est sur ça, d'accord? Donc, à quelque part, vous savez, on veut grandir dans ces domaines-là. Mais est-ce que tout ça, c'est une patente d'église? Est-ce que tout ça, c'est comme notre projet à nous? Et on a pensé, en travaillant sur la série, de terminer avec la personne de Dieu. Parce que ce projet-là, ce n'est pas un projet d'église, ce n'est pas un projet d'homme, c'est le projet de Dieu en réalité, beaucoup plus que n'importe qui. Si avant d'aller dans les passages, faites juste penser avec moi à l'ensemble des Écritures, d'accord? Quand je survole l'ensemble des Écritures à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, du premier livre jusqu'au dernier livre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve dans la Genèse un Dieu qui a créé l'univers. Un Dieu qui était suffisant, qui n'avait pas besoin de nous, qui était heureux. La Sainte Trinité n'avait pas tout d'un coup besoin de la compagnie des hommes pour être vraiment heureuse, d'accord? C'est Dieu. Dieu n'avait pas besoin de nous. Et ce Dieu merveilleux-là, parfait, suffisant, excellent en tout point, a jugé bon de créer un univers, de créer le temps, l'espace, de créer une terre absolument merveilleuse, fantastique, d'y mettre une diversité animalière incroyable, une flore majestueuse, et puis créer l'être humain, l'homme, la femme à son image. Il nous place là. Est-ce que j'ai pas déjà un Dieu qui est incroyablement accueillant, qui nous place dans cette terre-là merveilleuse, puis qui nous crée à son image? Il nous forme à son image. De toutes les créatures de la terre, il nous crée supérieurs à tout le reste de la création parce qu'on est à son image. Il nous crée à sa ressemblance. Puis vient la chute. L'homme, l'être humain, non reconnaissant, se rebelle contre Dieu, rejette son Créateur, méprise son Créateur et décide d'être indépendant, d'être autonome. J'ai pas besoin de toi, Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Dieu prend soin encore. Puis un peu plus tard, lorsque j'avance dans l'Ancien Testament, Dieu va se choisir un peuple. Il va racheter ce peuple-là. Il va les conduire dans la terre promise, une place où ils vont avoir un territoire pour eux, ils vont être à l'abri, ils vont pouvoir marcher avec Dieu. J'ai encore ce Dieu qui accueille et qui forme. Mais l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est une histoire glorieuse et triste à la fois. Parce que ce peuple-là est encore rebelle à Dieu. Ce peuple-là n'est pas un peuple qui marche avec Dieu. Il va y avoir des jugements, il va y avoir des déportations, il va y avoir des moments extrêmement difficiles dans son histoire. Puis vient Christ, vient Jésus-Christ qui vient vers nous. Dans quel but? Offrir sa vie en sacrifice sur la croix afin de former un peuple nouveau. Ce peuple nouveau-là, qu'est-ce qu'il reçoit? Il est accueilli dans la famille de Dieu. C'est ça le but, c'est ça le projet de Dieu. Lorsque Jésus-Christ vient mourir sur la croix pour nos péchés, c'est afin que nous puissions être accueillis dans la famille de Dieu. Il vient former un peuple nouveau. On expérimente ce que le Nouveau Testament appelle la nouvelle naissance. On reçoit un cœur nouveau, son esprit vient en nous. Et Dieu forme Christ en nous. On continue dans cette histoire-là, on arrive dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Seigneur a quitté les apôtres, lorsqu'il a quitté les disciples, il est monté au ciel, il leur a dit, je reviens pour vous chercher. Je m'en vais vous préparer une place. Une place exceptionnelle, une place belle où vous n'aurez plus à lutter avec le péché. Vous allez être entièrement transformés à l'image de Christ. J'ai encore ce Dieu qui accueille. L'Apocalypse, c'est un livre où le jugement est présent, mais le but de l'Apocalypse, c'est d'arriver à la fin de ce livre-là. Et trouver à la toute fin de la Bible encore ce Dieu-là qui nous accueille, qui achève parfaitement ce projet qu'il a eu de nous transformer, de nous former à l'image de Jésus-Christ. J'ai encore ce Dieu qui nous accueille dans un lieu merveilleux où la formation va être terminée complètement. Alors voyez-vous, ce projet-là d'être une église qui accueille, d'être une église qui s'investit dans la formation de disciples, c'est pas un projet d'homme. C'est pas notre projet. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est être un reflet de la personne de Dieu. Et ce matin, ce qu'on veut faire en terminant cette série-là, c'est pas avec des mandats, c'est pas avec des choses à faire, c'est pas avec qu'est-ce que vous devez faire pour être des gens qui accueillent, des gens qui font des disciples. C'est simplement contemplant Dieu. On s'est dit, on va terminer en regardant ce Dieu merveilleux qui est en réalité celui qui accueille et qui forme. Ce matin, on va voir ensemble qu'accueillir et former, ce n'est pas notre projet, mais c'est celui du Dieu merveilleux qui nous a accueillis, qui nous accueille encore à tous les jours et qui nous forme en Jésus-Christ. Et on veut simplement l'adorer. Et dans la mesure où on va grandir dans notre contemplation de ce Dieu-là, il va nous transformer à l'image de Christ de plus en plus. Et on va être une église qui accueille. On va être une église qui s'investit dans la formation de disciples. Mais ce matin, on veut simplement adorer Dieu, être reconnaissant pour sa grandeur, sa beauté. Dieu ne demande jamais aux êtres humains d'être ou de faire ce qu'il n'est pas ou ce qu'il n'a pas fait. Dans ce sens-là, c'est le parfait formateur de disciples. Dieu ne dit pas « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Jamais. Commençons avec Romains ensemble. Dieu vous a accueilli en Jésus-Christ. Tournez avec moi dans Romains 14, Romains 15, si vous n'y êtes pas déjà. On va juste aller voir ensemble le contexte rapidement, puis on va voir ce Dieu qui nous accueille. Donc, j'ai mentionné le contexte, un contexte où il commence à y avoir des divisions dans l'Église parce qu'il y a des gens qui mangent ceci, d'autres qui ne mangent pas ça. Il y en a qui observent des jours particuliers avec certains rituels. D'autres se sentent totalement libres et ils n'ont pas à faire ça. Et au début du chapitre 14, voici ce que Paul dit lorsqu'il est en train d'adresser ça dans l'Église. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Pourquoi? Parce que Dieu l'a accueilli. Parce que Dieu l'a accueilli. Tout ce que Dieu nous demande de faire dans l'Église, c'est de lui ressembler, c'est tout. Parce que Dieu est celui qui accueille. Et donc, Paul dépose ça, puis un petit peu plus loin dans le passage, il vient de dire que c'est Dieu qui a accueilli, mais après ça, il va nous dire que c'est Jésus-Christ qui a accueilli. Il y a quelques allusions comme ça dans Romains, où on voit un rôle qui est donné à Dieu, puis un rôle qui est donné à Christ. Dieu le Fils, la Sainte Trinité qui est à l'œuvre, d'accord? Alors, allez un petit peu plus loin dans le passage, en fait, dans Romains 15 au verset 7, Paul va être très, très direct et il va dire, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Normalement, si je prêchais sur ce passage-là, ben, je terminerais avec un tout doux, un devoir, « Accueillez-vous. » Ce n'est pas ce qu'on veut faire ce matin. On va rester sur le verset 7, mais pour fixer les regards sur la personne de Christ. Paul dit, le modèle pour accueillir, c'est Jésus-Christ, parce que lui vous a accueilli. Lui vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Regardez ce qui suit tout de suite après au verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, d'accord? Serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, bien, il y avait des promesses qui avaient été données aux Juifs dans l'Ancien Testament. Et Jésus a, pendant toutes ces années de ministère en Israël, Jésus a vécu une tension où il était rejeté et reçu. Reçu par la foule, rejeté par les autorités, rejeté par ceux qui prétendaient comprendre les Écritures. Et littéralement, Jésus a pratiqué son ministère pendant 3 ans, méprisé de plus en plus, de manière croissante par toutes les autorités. Jésus s'est fait serviteur des Juifs qui ne l'ont pas reçu. Encore à ce jour, la majorité des gens qui en viennent à croire en Jésus-Christ ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas des gens d'origine juive. Parce que l'Évangile, de tout temps, a été davantage reçu chez les païens. Mais Jésus a eu ce ministère de serviteur. Je me suis interrogé quand j'étudiais le passage, pourquoi il s'est fait plus serviteur des juifs que des non-juifs, des circoncis que des incirconcis? Parce qu'il était le Messie. Il était le Messie qui aurait dû être accueilli comme un héros incroyable. Ceux qui connaissaient la Bible auraient dû reconnaître qu'il venait accomplir toutes les prophéties. Mais ceux qui auraient dû le reconnaître ne l'ont pas reconnu. Et il a été serviteur. Il a été serviteur pour montrer que Dieu est fidèle à ses promesses. Et à chacun d'entre eux qui ont voulu reconnaître en lui le Messie, il a fait d'eux l'Église. Et donc, des Juifs en sont venus à croire en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu et a accueilli les Juifs, les circoncis, il l'a fait en étant leur serviteur. C'est pour ça que je vous dis, Il n'y a absolument rien que Dieu nous demande de faire qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. Et c'est toute la beauté de la personne de Jésus-Christ. Quand tu es en cheminement et tu es en train de regarder, il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de révélations de la personne de Dieu, tu vas rencontrer des prophètes ou des soi-disant prophètes qui parlent de Dieu, qui parlent de Allah, qui parlent d'un Dieu, d'un autre Dieu. Jésus-Christ est Dieu le Fils, qui n'est pas venu simplement comme prophète nous parler d'un Dieu. C'est Dieu le Fils qui est venu prendre nos péchés, la plus basse des positions, pour devenir notre serviteur. Et au non-juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la miséricorde, dans le fond. Il a annoncé la grâce. Vous qui n'étiez pas le peuple de Dieu, vous entrez et vous devenez le peuple de Dieu. Sans discrimination aucune, Jésus-Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Juif, non-juif. Ça paraissait à travers tout son ministère. Lorsque je pense à Dieu, puis que ce que je vois premièrement dans mon esprit, c'est un juge, je ne comprends pas qui est la personne de Dieu. Dieu est avant tout amour. Il est saint aussi. Et il est juge. C'est pourquoi son Fils est venu mourir sur la croix pour juger le péché et nous offrir la possibilité d'être accueillis dans la famille de Dieu. Donc Dieu est juge, Dieu est saint, mais Dieu est amour et Christ est venu accueillir sans discrimination aucune. Et je suis pas en train de vous dire ce matin, donc vous devez accueillir sans aucune discrimination. Ce que je vous dis, c'est que Dieu vous a accueilli sans aucune discrimination. Je vous parle de Dieu, pas de vous ce matin. Je vous parle de nous, comment Dieu nous a accueillis. Sans aucune discrimination. Il n'y a personne ici, il n'y a personne à Longueuil, il n'y a personne au Québec, il n'y a personne sur la terre qui porterait en lui quelque chose qui ferait que Christ ne voudrait pas l'accueillir. Christ veut accueillir sans discrimination aucune. Tous ceux qui vont se tourner vers lui pour recevoir le pardon des péchés. Et il le fait en devenant le serviteur de tous. C'est intéressant lorsqu'on s'arrête juste sur le verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » C'est quoi le terme qu'il y a là pour « accueillir » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire comme « prendre pour faire part ». Prendre part à soi, accueillir dans ma maison. Puis lorsqu'on se promène dans le Nouveau Testament, puis on dit « OK, où est-ce que je trouve ce terme-là en grec qui est utilisé ailleurs ?» Je le trouve dans un passage du Nouveau Testament auquel vous ne penseriez probablement pas. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui avait une fiancée qui s'appelait Marie. Cette fiancée-là, par une intervention de l'Esprit-Saint, allait devenir enceinte et mettre au monde un homme, que dis-je, Dieu le Fils, Jésus. Et un ange est apparu à cet homme-là, qui était un homme de bien, un homme qui avait des principes, qui savait qu'on se gardait pour le mariage. L'intimité sexuelle, c'est pour le mariage, c'est un homme de principe. Un ange lui apparaît pour lui dire, écoute, on va jouer avec tes principes un petit peu, là. Fait qu'on veut juste te préparer, mon homme. Ta fiancée va être enceinte. Ta fiancée va être enceinte. Et l'ange lui dit, c'est par une intervention de Dieu. Crains pas. Doute pas de sa moralité, c'est par une intervention de Dieu. Et l'ange lui dit, ne crains pas de la prendre pour épouse. Le terme que j'ai là, c'est accueillir. Ne crains pas de l'accueillir, de former un foyer avec elle. Lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, une des images les plus fortes dans tout le Nouveau Testament pour illustrer cet accueil-là, c'est que Christ est venu comme un époux qui venait se préparer une épouse, l'Église. Il venait se racheter, préparer une épouse qui n'était pas digne, qui n'était pas digne de cette union-là. Et en mourant sur la croix, il préparait tout ce qui était nécessaire pour que cette épouse-là puisse être accueillie. Dieu ne pas regarder les hommes qui ont gâché à quelque part le projet initial, si je peux le dire comme ça. C'est pas tout à fait juste parce que selon les décrets de Dieu, les choses allaient se passer comme ça. Mais Dieu n'a pas regardé les hommes rebelles sur la terre en disant, ça serait malheureux quand même. Ça serait malheureux quand même que ces gens-là soient simplement damnés pour l'éternité puis que je les rejette loin de ma face. Je vais leur préparer un petit coin où je leur donnerai peut-être pas tout ce que je voulais leur donner d'être dans ma présence, mais au moins ils vont pouvoir s'occuper pour l'éternité. Puis je vais aller les racheter puis je leur donnerai un petit coin là. C'est pas ça qu'il a fait. Dieu a dit, je vous ai créé et je vais faire de vous mon épouse, ma famille, je vais vous accueillir. Et c'est ça le terme que j'ai ici. C'est comme ça que Dieu vous a accueilli. Certains d'entre vous, vous avez de la difficulté à vous voir comme vraiment les enfants de Dieu, l'épouse de Christ, son trésor le plus précieux. Et pourtant, c'est comme ça qu'il vous a accueilli. Comme Joseph était appelé à le faire avec Marie. Prends-la pour épouse. Accueille-la. Prends-la pour épouse. Et vous savez, lorsqu'on pense à l'accueil, en tout cas moi humainement, personnellement, lorsque j'accueille des gens, mon réflexe souvent, c'est... Il y a un petit peu un bénéfice personnel dans le sens que j'accueille des gens, on est hospitalier, ils viennent manger chez nous à la maison, on veut passer du bon temps. Tu sais, je me dis pas je vais accueillir des gens puis ça va être misérable, je vais marcher sur des œufs tout le temps, je pourrai jamais être moi-même. Puis non, c'est comme j'espère qu'on va passer du bon temps. Il y a quelque chose que je m'attends à recevoir dans cet accueil-là. Je donne puis à quelque part je vais recevoir dans ça. Puis il y a comme une difficulté dans le passage. Regardez avec moi le verset 7, d'accord? Il y a une difficulté, puis vous ferez tous les théologiens ce matin, vous trancherez là-dessus, vous me direz, c'est quoi votre position, c'est bon? Au verset 7, c'est écrit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le grec ne me permet pas vraiment de trancher à savoir si c'est Christ qui nous a accueillis pour la gloire de Dieu, ou si nous, on doit accueillir comme Christ nous a accueillis, on doit accueillir pour la gloire de Dieu. Lequel des deux doit le faire pour la gloire de Dieu? Je pense que la réponse, c'est les deux. Mais le grec ne me permet pas de trancher. C'est comme il y a une ambiguïté dans le texte avec la structure qui est là. Mais clairement, dans le ministère de Jésus, il n'y en a aucune ambiguïté. Ce que Christ a fait lorsqu'il a accueilli, ce que Christ a fait lorsqu'il est venu servir, ce que Christ a fait lorsqu'il a été fidèle, il le dit explicitement dans l'Évangile de Jean, il a tout fait pour la gloire de son Père. Alors lorsque Christ vient puis il accueille, il n'y a pas comme d'attente de retour sur investissement. Il n'est pas en train de nous accueillir en disant « Waouh, ça va être cool, on va passer du bon temps ». Il ne le fait pas pour ça. Un petit peu plus tôt dans le passage, au verset 3, l'apôtre Paul va citer un psaume, d'accord? Le psaume 69, si vous allez au verset 3, il cite le psaume 69. Ce psaume-là est cité ailleurs aussi dans l'Évangile de Jean. C'est un psaume qu'on appelle un psaume messianique. C'est-à-dire que l'auteur qui l'écrit est sûrement en train de parler de lui-même, mais inspiré par l'Esprit-Saint, sans nécessairement le savoir, il est aussi en train de parler d'un double accomplissement, d'accord? Et donc, quelque chose qui va peut-être s'accomplir dans le Messie, avec Jésus. Et donc, ce qu'il cite ici, ce verset-là, c'est « Les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Et c'est cet esprit du serviteur de Dieu qui a tellement à cœur les choses de Dieu que lorsqu'on s'en prend au nom de Dieu, ça devient des attaques personnelles contre lui. Il reçoit ces attaques-là comme étant des attaques personnelles. Parce que ce qui est important à ses yeux, c'est pas son nom, c'est la gloire de Dieu. Et pendant que j'étais en train d'étudier le passage cette semaine, je me disais, comment on peut comprendre cette idée-là qu'on fait les choses pour la gloire de Dieu, que Jésus est venu faire les choses pour la gloire de Dieu? C'est que Christ avait tellement à cœur la gloire de son Père qu'il ne nous accueille pas pour sa gloire à lui, pour le bénéfice que lui va trouver, mais pour la gloire de son Père. Et c'est comme ça que Jésus-Christ vous a accueilli. Jésus-Christ t'a accueilli, si t'as placé ta foi en lui, pas premièrement pour que tu dises, waouh, Jésus, t'es extraordinaire, t'es incroyable. Il l'a fait pour le nom de son Père, pour la gloire de son Père, d'une manière totalement désintéressée. Et c'est pour ça qu'on se rassemble le dimanche matin, puis on élève des chants de louange, puis on chante la gloire de Christ, parce qu'il est beau, il est glorieux de cet amour, de ce don de soi-là qui est désintéressé. Non seulement désintéressé parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on soit des gens extraordinaires qui allons comme toujours être sur la coche, mais parce qu'il ne le faisait pas premièrement pour lui-même, il le faisait pour la gloire de son Père. C'est ce Sauveur-là qui vous a accueilli. C'est un Sauveur qui s'est fait votre serviteur, qui s'est donné pour vous, qui vous accueille sans aucune discrimination, qui ne le fait pas dans son propre intérêt, mais qui l'a fait pour la gloire de son Père. Et c'est ce Dieu-là qui a donné son Fils qui vous a accueilli. Voici le Dieu qui t'accueille. Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on l'adore? Comment on met ça en action? Comment on applique ça, ces idées-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On adore. Lorsqu'on s'assemble pour louer, pour chanter ses louanges, on contemple sa beauté parce qu'il est le Dieu qui accueille sans discrimination. C'est le Dieu qui se fait serviteur. C'est le Dieu qui se donne entièrement pour nous accueillir, chacun d'entre nous. À partir du moment où on réclame ce salut en Jésus-Christ, il nous accueille. Comment on met ça en application? En rendant grâce. Je me lève le matin puis je dis, Seigneur, je me sens pas digne. Je me sens pas digne d'être ton enfant, mais je sais que tu m'accueilles. Comment est-ce que je mets ça en application lorsque je m'assois à la maison avec les enfants puis on prend le temps de rendre grâce, de remercier pour la nourriture? Je prends le temps de remercier ce Dieu-là qui nous accueille. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Dans la mesure où je vais être en train de grandir dans mon adoration, dans ma contemplation de ce Dieu-là, je vais être transformé. Je vais le refléter de plus en plus. Dieu ne vous a pas simplement accueilli. Il s'est engagé, il s'est investi entièrement dans votre formation. Complètement dans votre formation. Je l'ai mentionné tout à l'heure au début du message, j'ai dit, on commence avec la Genèse, puis Dieu nous crée à son image. C'est lui qui nous a littéralement, là. Si on parle de formation de disciples, là, écoutez, c'est de la plasticine, là. C'est de la formation, ça. Tu crées l'être humain, tu sais. Si ça, c'est pas de la formation, je sais pas ce que c'est. Et il nous crée pas simplement physiquement, il nous crée à son image. Il nous crée à son image. Puis nous, on gâche la patente, on scrappe la chose, tu sais. On pêche, on se rebelle. Et cette image-là, fondamentalement, où on reflète Dieu dans ce qu'on est, dans ce désir de servir Dieu, ce désir de l'honorer, cette conscience de l'être, mais une quête de sainteté, d'amour, de compassion, c'est fracturé en nous, c'est brisé. En théologie, on va parler d'être déchu, déchu de la grâce. Il y a quelque chose qui est brisé en nous. Et si tous les êtres humains sur la terre sont encore à l'image de Dieu, cette image-là, à quelque part, est fracassée. Il n'y a plus cette capacité-là vraiment de refléter à chaque instant la personne de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'investit à 100% dans ma formation, dans ta formation, en envoyant son Fils. En envoyant son Fils. Tournez avec moi dans Galates, s'il vous plaît. Allez avec moi dans Galates. Galates 3, la fin du chapitre 3 complètement. Comme je l'ai mentionné, le contexte, c'est que les gens ont compris que Jésus est venu mourir sur la croix. Ils sont devenus chrétiens en comprenant qu'on est sauvé uniquement par grâce. Mais certains d'entre eux se sont dit, non, mais attends un petit peu, ça ne marche pas. L'Ancien Testament, ce n'est pas acheté aux poubelles, cette affaire-là. Évidemment, ce n'est pas acheté aux poubelles. Évidemment, on prêche régulièrement dans l'Ancien Testament, on le lit. Mais avec une mauvaise compréhension, ils se sont dit, il faut quand même observer la loi pour qualifier dans notre salut. Et là, Paul est effrayé complètement parce qu'il dit, vous ne comprenez pas c'est quoi la grâce. Si vous pensez que vous avez à performer pour être sauvé, À quelque part, vous êtes en train de renier complètement l'Évangile. L'Évangile, c'est la démonstration que tu n'arriveras jamais à être sur la coche, mon homme. Jamais tu n'arriveras à être sur la coche. Tu es sauvé par grâce seulement. Et donc, Paul veut adresser cela. Mais voyez, regardez bien au verset 3 et 4 ce qu'il dit, d'accord? Parce qu'on commence là au verset 3, complètement à la fin du chapitre 3, les versets 26-27. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes devenus fils de Dieu. À travers tout le chapitre 4, Paul va développer l'idée qu'on est sauvé par grâce et que cette reconstruction-là de cet homme déchu que je suis, que tu es, ça ne pouvait pas se faire par nous-mêmes. Il y a des programmes qui existent de self-help, de croissance personnelle. Ça peut être utile pour travailler sur des choses dans ta vie. Mais fondamentalement, ce qui a été brisé par le péché, l'être humain est incapable de le reconstruire par lui-même. On n'a pas cette capacité-là. Et donc, Dieu devait prendre l'initiative pour venir vers nous. Et voici ce qu'il dit à la fin du chapitre 3, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, pas par vos propres œuvres, par la foi en Jésus-Christ. » Et donc, Dieu s'est investi dans ma formation en donnant son Fils, qui venait mourir sur la croix pour moi parce que je ne pouvais pas le faire par moi-même. C'était impossible pour moi de le faire. Et donc, Dieu a donné son Fils. C'est par la foi dans son œuvre. Maintenant, regardez un petit peu plus loin ce qu'il va dire au verset 6 et 7. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. » Il n'y a plus à Dieu de s'investir dans ma formation, non seulement en envoyant son Fils mourir sur la croix, mais en me donnant son Esprit Saint qui vient faire sa demeure en moi. Le matin, de 9 à 10, le cours que je suis en train de donner actuellement, c'est la formation de disciples. Je le répète souvent dans le cours, parce que je le crois, parce que c'est mon expérience, mais surtout parce que les Écritures l'enseignent. Le vrai coach là, dans la formation de disciples, c'est pas toi, c'est pas moi, même si tu peux être comme très mature dans ta foi et tout ça. Le vrai coach, c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui habite en toi. C'est l'Esprit-Saint qui est en train de te façonner, qui est en train de te transformer. Et donc, Dieu s'est investi dans ta formation en donnant son Fils qui venait mourir sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, et il s'est investi dans ta formation en te donnant son Esprit qui habite en toi. C'est à ce prix-là qu'il s'est investi dans ta formation. Puis là, Paul est aux prises avec cette Église qui veut retourner certains d'entre eux sous la loi. Et donc, Paul vit tout un déchirement intérieur parce qu'il dit « Je vous ai prêché l'Évangile, puis vous êtes en train, à quelque part, de renier l'Évangile. Alors que vous avez commencé sous la grâce, vous voudriez terminer sous la loi, mais qu'est-ce que vous faites là? » Regardez le verset 19, Galates 4, 19. Voici ce que ça amène Paul à dire. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'engagement que Dieu a pris envers toi et moi, à partir du moment où je suis devenu fils, je suis devenu une fille, un fils, une fille de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, l'engagement qu'il a pris, c'est de former Christ en moi. Pensez à un autre passage dans Éphésiens, à Éphésiens 4, si vous êtes familier avec le passage. Autrement, je vais juste vous lire les versets 11 et suivants. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et donc, le projet de Dieu, ce n'est pas de te sauver par grâce, puis te laisser là comme un fils. Tout le propos de Paul dans Galates, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que vous retournez à l'enfance? Pourquoi est-ce que vous retournez au début? Pourquoi est-ce que vous ne grandissez pas? Pourquoi voulez-vous retourner sous la loi? Vous devriez déjà être plus mature. J'ai l'impression de devoir vous mettre au monde à nouveau. Et au contraire, je prie pour que Christ soit formé en vous. Et ça, c'est l'engagement que Dieu a pris envers chacun d'entre vous. Il s'est engagé à former Christ en vous. Et des fois, avec les années de vie chrétienne, il y a des trucs avec lesquels on lutte, puis on a l'impression comme que Dieu nous tient avec une petite chaîne. Tu sais, il nous a sauvés, puis il nous traîne. On est comme en queue de peloton, puis on n'est pas vraiment en train d'avancer. Moi, je suis sauvé par grâce, mais écoute, d'après moi, c'est tout ce qu'il va réussir à faire avec moi, ça va s'arrêter là. Ce n'est pas ça le projet de Dieu pour toi et moi. Dieu ne nous a pas sauvés pour que on soit misérable de réaliser combien on est pécheur. Moi, avant d'être chrétien, je me doutais que j'étais pécheur, tu sais, parce qu'on m'avait enseigné les Écritures depuis quand même 7-8 ans dans mon enfance, mais c'est drôle, je suis beaucoup plus conscient de mes péchés en étant chrétien qu'en ne l'étant pas. Et puis, je dois m'appuyer constamment sur la grâce. Mais Dieu ne m'a pas sauvé simplement pour qu'à chaque matin, je dise, « Seigneur, je suis pareil comme il y a 10 ans. Seigneur, je suis pareil comme il y a 20 ans. » L'engagement de Dieu, c'est de former Christ en nous. De nous amener progressivement à l'état d'homme fait, d'homme et de femme mature en Jésus-Christ. Et c'est ça son projet pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que l'Esprit de Dieu qui habite en nous patiente avec nous. Patiente lorsque je suis en train de lutter avec le péché. Et il ne nous abandonne pas, il demeure en nous. Dans mes pires moments, dans mes luttes, dans mes moments difficiles où je dis, « Mais Seigneur, est-ce que je suis chrétien, tableau? » Ça fait tellement d'années que je suis chrétien, je suis encore en train de lutter avec ça. Est-ce que je suis chrétien? Je lis les Écritures, puis je languis de marcher dans davantage de sainteté, d'être plus mature comme homme. Puis l'Esprit de Dieu parle à mon cœur. T'es un fils, Yannick. T'es un fils Abba Père. Puis j'ai cette conviction qui est là dans mon cœur, Seigneur. Si tu me posais la question, vers qui veux-tu te porter maintenant? J'irai nulle part ailleurs, je t'ai connu, Jésus. Je suis ton enfant, j'ai ton esprit qui habite en moi. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Mais le projet de Dieu ne s'arrête pas là. Il veut former Christ en nous. Il ne veut pas nous garder dans l'enfance de la foi, il veut nous conduire à maturité. Et c'est là à travers tout le Nouveau Testament. Le projet d'accueillir et de former, ce n'est pas notre projet. Ce n'est pas un truc d'homme où on va développer des méthodes ensemble puis on va réussir à faire ça. C'est le projet de Dieu. Et ce matin, comment est-ce qu'on applique ça? C'est pas en partant puis en disant OK, je vais aller accueillir. C'est bon, Richard l'a mentionné la semaine dernière. Go, c'est bon. Mais c'est pas ça que je vous dis ce matin. C'est pas ça que je vous dis ce matin. Parce que c'est pas avec des méthodes puis avec des principes qu'on va être transformé davantage à l'image de Dieu. C'est en contemplant Dieu. Jean Calvin avait cette superbe réflexion. Il dit, c'est impossible pour l'homme de se connaître lui-même en regardant à l'intérieur de lui. Pour se connaître, l'homme doit commencer par regarder à Dieu, son Créateur, pour ensuite découvrir qui il est. Et on va effectivement devenir une église qui accueille davantage et qui s'investit dans la formation de disciples, dans la mesure où on va voir la beauté, voir la grandeur de ce Dieu qui toujours accueille les hommes. Depuis le début, son projet, c'est de nous accueillir. Qui nous accueille au prix de donner son Fils, d'un Fils merveilleux qui se fait serviteur pour nous, qui vient mourir sur la croix pour qu'on puisse être accueillis sans aucune discrimination. Qu'il ne fait pas pour lui-même, qu'il fait pour la gloire de son Père. On va grandir dans la formation de disciples dans la mesure où tous les jours, je vais reconnaître que Dieu s'investit du meilleur qu'il a, la personne de son Fils, Jésus-Christ. Il a investi son Fils pour que cet homme brisé que je suis puisse glorifier Dieu, pour que je devienne un enfant de Dieu. Il a investi littéralement son fils à la mort pour que je puisse entrer dans la famille de Dieu. Il m'a donné son esprit qui est venu habiter en moi, qui est en train de me transformer de grâce en grâce, de gloire en gloire, contemplant la beauté de Christ pour que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Laissez-moi être un petit peu plus concret. Vous trouvez ça dur de vivre avec une épouse, un époux qui ne grandit pas? Vous trouvez ça difficile de voir dans l'Église que des fois les gens ne grandissent pas suffisamment? Vous trouvez ça difficile de vous regarder dans la glace puis de dire, Seigneur, je ne grandis pas assez vite. C'est correct de confesser mes péchés, je dois le faire. C'est correct de lire les Écritures puis de dire, voici, Seigneur, je vais travailler ça aujourd'hui. Je le vois, tu me convaincs de péché, je veux obéir aujourd'hui. Mais la première chose, et celle qui profondément va vous transformer, c'est d'être des adorateurs. C'est de contempler Dieu dans toute sa beauté, ce Dieu qui nous accueille et qui nous forme. Et à la mesure où vous allez vous rappeler de ça, vous allez grandir dans cette adoration-là. Lorsque vous venez le dimanche matin, vous venez vraiment pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu à quelque part à travers les louanges, le message, et voir sa gloire. Puis de ça, toutes sortes de directives, d'applications, de choses à faire vont venir, c'est vrai. Mais on ne vient pas premièrement pour partir avec une liste de choses à faire. On vient premièrement pour adorer Dieu, pour voir sa gloire, sa beauté, être transformé par la majesté de ce Dieu-là qui nous aime. Amen. On va prier ensemble, puis on va l'adorer dans la louange ensemble ce matin. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier premièrement pour toute personne dans la salle qui entend tout ça, mais dans son cœur n'a pas expérimenté cet accueil que tu offres à tous les hommes, parce que ta parole nous dit que tu veux que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. J'aimerais te prier ce matin pour les jeunes, les moins jeunes, hommes ou femmes dans cette salle qui est à l'écoute, mais n'entend pas dans son cœur l'Esprit lui dire, tu es un fils, une fille de Dieu, parce qu'il n'a pas encore placé sa foi en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de l'inviter, de faire une œuvre puissante par ton esprit pour que les luttes, les combats s'arrêtent et qu'avec beaucoup d'humilité, simplement avec toi dans la prière, il peut se dire, Seigneur, je suis pécheur et j'ai besoin que tu m'accueilles par ta grâce. Je suis pécheur et j'ai besoin simplement de m'appuyer sur ta grâce, sur ton pardon, pour être accueilli dans ta famille. Viens, Seigneur, convainc de péché, de justice, de jugement. Conduis, Seigneur, à cette profonde repentance où le cœur se reconnaît pécheur. S'humilie devant toi et accepte ta grâce, Seigneur. Convainc, mon Dieu. Accorde cette grâce et qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre entre dans la famille de Dieu, soit accueilli par toi, Seigneur. Et que cette transformation profonde, cette formation puisse commencer maintenant, ce matin, Seigneur, je t'en prie, oh Dieu. Père, je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes des doers. On aime faire des choses, on veut que la vie chrétienne soit concrète, on veut comprendre qu'est-ce que t'attends de nous, Seigneur. Seigneur, t'es venu pour faire de nous des adorateurs. Des gens qui fixent les regards sur toi, qui ouvrent la parole pour te contempler, toi, avant de chercher à faire des choses, qui s'assoient à tes pieds, Jésus, pour recevoir ta beauté, ta parole, Seigneur, être transformé à ton image parce que nous te contemplons, Seigneur. Seigneur, fais-nous découvrir ta beauté, ta gloire. que la vie chrétienne ne soit pas un ensemble de devoirs, mais beaucoup plus la réponse d'un cœur qui adore, parce qu'il a été saisi par ta grâce, Seigneur. Seigneur, par la foi, on veut dire ce matin qu'on croit que tu nous as accueillis. Par la foi, on veut dire ce matin, Seigneur, qu'on croit que tu ne nous abandonneras pas et que tu vas continuer cette œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur. C'est notre désir de te glorifier à notre tour en ressemblant à Jésus-Christ. Amen.